Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus ineffugée des radios, avec ce soir pour le Canu Info une équipe au complet, Jean-Pierre, Michel et Robert en duplex, pour aborder tout d'abord l'actualité internationale en premier lieu. On va peut-être ouvrir sur l'Afrique et sur le Burkina Faso.
La France-Afrique, alors.
La France-Afrique aussi, puisque on pourra discuter effectivement du rôle de la France dans ce qui se passe actuellement là-bas. Donc, Burkina Faso, où depuis une semaine, il s'est passé beaucoup de choses. La foule dans les rues a fini par décider, Compaoré, à prendre, faire ses clics et ses claques avant de se faire peut-être bien lyncher par la population. Là-dessus, ça n'a pas traîné. Le lendemain, un premier militaire prenait le micro devant les caméras pour dire « C'est moi le nouveau chef ». Le surlendemain, un deuxième militaire, peut-être plus crédible puisqu'il a l'air d'être toujours en place, prenait aussi le micro pour dire « Mais non, c'est moi le chef ». Il s'agit d'Isaac Zida, un lieutenant-colonel de la garde du président, donc soupçonné d'être un proche quand même. Les gens dans la rue continuant de manifester et continuent aujourd'hui aussi en disant on veut pas des militaires, on veut un civil comme président. Là-dessus, il est vrai que l'opposition politique est pas très structurée et organisée pour prendre le relais immédiatement. Et l'Union africaine vient ce soir de donner 2 semaines, ça coûte rien, mais ça n'engage pas à grand-chose, au pouvoir de Zida pour remettre le pouvoir dans un cadre constitutionnel à la société civile. Il n'est pas dit que ça va se passer comme ça, mais voilà un petit peu le bilan de la situation à l'heure qu'il est. Maintenant, alors qu'est-ce qui a justifié ça ? Eh bien, c'est que Compaoré, après 27 ans de réélection, au départ sur un premier coup d'État, entreprenait de modifier la Constitution pour pouvoir rester encore 2 fois président. La mesure était comble. Elle n'est pas seulement comble en Haute-Volta, enfin ex-Haute-Volta, Burkina Faso. Et il y a 10 chefs d'État en Afrique qui sont en place depuis plus de 20 ans. C'est une véritable plutocratie qui s'installe. Ce qui vient de se passer au Burkina va peut-être leur donner à réfléchir un peu, certains d'entre eux du moins. Voilà, on peut faire d'autres commentaires. Le rôle de la France, tu l'évoquais, Robert. Il n'a pas l'air d'avoir été si fort que ça dans cette opération de la semaine écoulée. Oui. Ah ben alors je me tourne vers Michel, parce qu'il n'a pas l'air de m'entendre.
Non, la France se tient à sa fameuse neutralité depuis 1960, depuis qu'elle a accordé l'indépendance à ses anciennes colonies, elle s'en tient à sa neutralité. Enfin, ouais. Le langage officiel aujourd'hui, voilà, tend à nous faire croire que la France est neutre sur ce dossier-là.
Elle est neutre, mais elle est capable aussi d'imposer des échéances pour des élections, quoi. Une ingérence.
Mais bien entendu, et plus que ça, l'histoire du Burkina Faso, de l'Haute-Volta Burkina Faso, c'est l'histoire aussi de la diplomatie française, de la France-Afrique. Juste pour rappel que Thomas Sankara, dont la mort reste toujours une énigme, mais dont on soupçonne très fortement les services secrets français, et Blaise Compaoré, donc, d'avoir été derrière sa disparition. Une commande, ni plus ni moins que de l'État français à Blaise Compaoré pour éliminer un élément qui était marxisant, qui sortait effectivement de ce que Paris attendait de ces petits soldats africains. Et Compaoré, oui, ça a été ces dernières années surtout l'entremetteur, celui qui réconciliait l'irréconciliable. Donc la France a joué de Compaoré sur différents dossiers, sur le dossier malien, pour amener à la discussion donc le gouvernement de Bamako et les sécessionnistes du nord de la Zawad, sur le dossier également nigérien, sur le dossier guinéen, enfin bref. Mais il ne faut pas oublier que Blaise Compaoré donc, avait fait le vide autour de lui, ce qui explique aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment d'opposition structurée. Hein, et en tout cas, la population en a eu marre, enfin, à l'idée même effectivement qu'il puisse briguer un quatrième mandat et réviser la Constitution. Et donc voilà, il a pas joué très fine sur ce coup-là. Mais la France, si neutre qu'elle l'est, n'en est pas moins attentive donc à l'émergence d'un homme. Bien sûr, il faut qu'il soit plutôt issu de la société civile. On préférait un civil à un militaire, mais bref, en tout cas, ce que veut la France sur ce bouleversement politique burkinabé, c'est qu'il y ait une forme de continuation hein, qui soit là. Donc pas de grands changements, pas de changements géostratégiques, mais on ne voit pas qui pourrait initier dans le contexte actuel un changement géostratégique dans la région. Donc, et d'ailleurs les militaires, hein, la première chose qu'ils ont faite après leur discours au peuple burkinabé, c'est aussi rassurer les chancelleries françaises et Washington hein, de la bonne tenue finalement de cette transition et que de fait on ne sait pas encore les échéances mais que le pouvoir reviendrait à un homme élu hein.
En tous les cas bon, c'est un pays où la jeunesse hein, tous les jeunes la majorité des habitants ont moins de 25 ans donc ils n'ont connu que ce dirigeant où la jeunesse a bouleversé la donne politique par la rue en une semaine, même s'il y a eu des militaires qui ont un petit peu cautionné et laissé le mouvement se développer, fût-ce d'ailleurs, il semble qu'il y ait une trentaine de morts quand même, fût-ce en exerçant une certaine répression. Mais bon, la jeunesse dans ce pays a brutalement mis fin à une situation qui était particulièrement antidémocratique. Alors reste à savoir si la nouvelle va l'être davantage, mais c'est ça qu'on va suivre. Robert, tu voulais intervenir là-dessus ?
Oui, on va ajouter simplement que après effectivement l'assassinat de Sankara, symbolisait un régime, on va dire, castriste. Hein. C'est un peu schématique, mais c'est pour bien marquer le courant vers lequel Sankara se dirigeait et s'était déjà engagé. Bien comparé a mis le Burkina Faso effectivement dans l'orbite occidentale, c'est-à-dire on va dire régime du libre marché capitaliste avec le corollaire, c'est-à-dire le pluripartisme. Ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas eu de véritable grande manifestation sanglante pendant ces 27 ans de présence de Compaoré au pouvoir, mais donc un alignement plutôt progressif de ce pays parmi les plus pauvres sur le modèle économiste occidental du Nord. Et on rappellera que malgré effectivement cette disparition de Sankara et des accusations portées, semble-t-il, à juste titre, contre l'entourage et lui-même, Compaoré, les ONG, le monde humanitaire a continué alors assez souvent se sentant en porte-à-faux, mais a continué d'œuvrer au Burkina Faso, qui était, avec le Mali, des points où notamment les humanitaires français, francophones, aimaient se rendre et tenter des expérimentations pour aider les populations. Ça a continué avec Compaoré, qui a été assez habile, effectivement, pour permettre de garder ce créneau. Et puis, l'autre point que je crois que vous avez souligné, c'est qu'effectivement, son Le rôle diplomatique qu'il a joué, et on l'a bien vu notamment lorsque il a participé à la prise de pouvoir de Ouattara, en Côte d'Ivoire à côté, au détriment de Gbagbé, de Laurent Gbagbo, qui lui aussi continuait de représenter, sous des formes un peu peut-être caricaturales, mais un système encore étatiste et marqué par une orientation plutôt à gauche. Et donc là aussi, Compaoré avait bien servi les intérêts de l'Occident sur ce terrain-là et en Côte d'Ivoire.
Oui, puis c'était un peu installé comme négociateur, enfin comme un personnage un peu incontournable dans les négociations autour des différentes tensions dans sa région africaine. Quoi. C'est les choses qu'on peut mettre à son crédit, ça.
Oui, mais en même temps, on va dire que c'est plus que l'homme de l'Occident, c'est l'homme de la France. Hein, et toutes les négociations, de près ou de loin, concernaient la France. Et la France avait besoin de ses stabilités. Dans l'histoire, effectivement, de la chute de Gbagbo, Compaoré, le Burkina Faso donc, a aidé logistiquement Ouattara, les rebelles du Nord, mais cet appui n'a pas pu se faire sans l'aval de la France. Hein. Donc c'est vraiment l'homme de la France. Et donc là, maintenant qu'il a pris la fuite, la question de savoir où est-ce qu'il va finir ses vieux jours. Et il y a des chances que ça soit sur la Côte d'Azur chez nous.
Pour le moment, il est en Côte d'Ivoire.
Ah oui,
la Côte d'Azur.
Il peut voyager. Ouattara, oui, mais bon, on verra bien.
Allez, autre sujet, on change de continent. Ben, il y avait des drôles d'élections, on va dire, mais des élections quand même, dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, donc, ce week-end, qui, sans grande surprise, ont donné à 80% des voix une espèce de plébiscite pour les leaders autonomistes du pays, un certain Alexandre Zarchenko. Et puis, tout cela pourrait déboucher sur une demande officielle de reconnaissance de cette république autonome par la Russie. C'est peut-être un peu le but de la manœuvre aussi. Russie qui se donne beaucoup de mal pour acheminer des convois humanitaires dans cette région-là. On peut peut-être penser qu'il y a d'autres régions de la Russie qui en auraient bien besoin et qui n'en sont pas alimenté, mais enfin bon, c'est comme ça, il y a des motifs politiques, il faut soutenir à tout prix ce qui se passe là, dans un contexte où la guerre n'est pas finie pour autant, puisque l'aéroport de Donetsk continue d'être l'enjeu de combat et de bombardement, et puis où l'Ukraine officielle déclare qu'il s'agit d'une farce électorale, puisqu'il y a une semaine, il y avait des élections législatives dans le reste du pays. Alors au-delà de ces faits, un peu, qu'est-ce qu'on peut penser de ce qui se passe ?
Concernant les élections qui ont lieu dans les deux oblasts de Donetsk et Lugansk, donc dans, on va dire, le Donbass pro-russe, qui veut aujourd'hui la sécession hein, de l'Ukraine, les journaux occidentaux titrent à la farce électorale. Il n'y a pas eu d'observateur.
C'est Poroshenko hein, qui a dit ça, le mot farce.
Oui, mais Poroshenko, mais la diplomatie des États-Unis aussi a utilisé en d'autres termes. Voilà, donc on ne veut même pas parler. Donc déjà, il est un fait, c'est que ces élections se sont tenues, que la population est massivement descendue, malgré les bombardements. Car on a insisté sur les bombardements de ces derniers jours, mais sans dire que c'était le fait des troupes régulières ukrainiennes qui, justement, essayaient de bombarder, et tant bien que mal, pour, justement, un peu squeezer la population et les obliger à rester à la maison et ne pas sortir pour voter. 130 bureaux, donc très peu hein, sur ce territoire concentré, mais de toute évidence, on n'a pas encore les chiffres de la participation, mais une participation nettement plus élevée que celle des législatives de la semaine dernière qui avait tourné autour de 52% donc, de participation. Donc voilà, d'un point de vue médiatique, on peut dire que c'est une farce, on peut dire que ces élections sont nulles et non avenues, qu'il n'y a pas eu d'observateurs internationaux, non pas qu'ils n'ont pas été convoqués hein, par les autorités de Donbass, mais c'est que l'OSCE ne voulait pas se déplacer et qu'aucun autre pays s'est déplacé en l'état. Mais bon, il ne faut pas oublier que quand même, il y a quand même des observateurs israéliens, slovaques, hongrois, des personnalités hein, éminentes de ces pays sont déplacées. Bon, voilà. Mais bon, le constat n'est même pas à faire, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment eu de Zakharchenko donc, à emporter haut la main, lui qui était déjà gouverneur, nommé gouverneur de l'oblast de Donetsk, et on ne peut pas vraiment dire que les partis étaient opposés les uns aux autres. Donc c'est un peu, c'est vrai, une farce en tant que telle au niveau pluralité.
C'était une élection contre Kiev.
Tout à fait. C'était, le but, c'était de montrer qu'il y avait plus d'une tendance, et de montrer donc, à l'opinion internationale que les gens sont sortis massivement. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et à ce propos, on a titré, les journaux ont titré, donc, après les législatives de la semaine dernière, au plébiscite donc, des Ukrainiens qui se tournaient vers l'Europe. Mais quand on interprète bien ces chiffres, on se rend compte qu'avec 52%, il y a de participation, et il y a des disparités énormes entre l'Ouest et l'Est, hein, entre l'Ouest, la région de Lvov, qui a, pour certaines oblasts, a voté à plus de 70%, et dans d'autres, les régions limitrophes, mais tenues par Kiev, hein, mais de régions pro-russes, où il y a eu une 35 à 40% de participation. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. L'Ukraine aujourd'hui est profondément, mais alors profondément divisée. On parle effectivement des extrémistes de tous bords, hein, ceux de l'Ouest, ceux de l'Est, mais la très grande partie des Ukrainiens est un peu médusée. Ce qui le préoccupe, c'est le cours de la hryvnia, de la monnaie nationale, et c'est l'inflation, et c'est de voir à quelle sauce ils vont être mangés. Mais parce que maintenant que Porochenko a tourné Kazakh vers l'Occident, maintenant il se doit de répondre donc au cahier des charges du FMI pour avoir ses prêts, à savoir commencer à enlever donc toute une série d'aides sociales.
Oui. Robert, tu voulais intervenir?
Oui, ce qui a été surprenant, c'est que 3-4 jours, même pas 2 jours avant cette élection, est intervenu un accord sur le gaz entre Kiev et Moscou. Et cet accord semble même avoir été finalement cautionné par par l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que déjà on est bien orienté vers un compromis. Alors ça sera quoi le compromis? Difficile peut-être d'en dire plus aujourd'hui, mais la signature de cet accord sur le gaz a surpris, parce qu'à la fois il pouvait désavantager les gens de Kiev, et puis finalement renforcer le courant séparatiste de l'Est. Mais je ne sais pas sur cette question si on peut en dire beaucoup plus.
Tu n'as pas eu l'impression que c'était surtout un accord entre l'Union européenne et Poutine pour assurer ses approvisionnements en gaz pour l'hiver, et l'Ukraine n'étant que le lieu de transit lequel il fallait bien que le gaz passe, quoi. Et que finalement, c'est surtout ça qui a été déterminant dans les conclusions de l'accord. Et Poutine, il a besoin de vendre son gaz aussi, hein. Il a un rouble qui est en train de se casser la gueule avec une banque centrale qui le soutient comme elle peut avec bien du mal. Donc c'est peut-être ça qui est surtout déterminant, indépendamment de l'Ukraine.
Entre autres, oui, tout à fait, c'est déterminant. Mais dans cette histoire-là, il y a quand même un accord. Donc, les Ukrainiens prélevant une certaine partie du gaz, donc, et aussi l'histoire d'un tarif. Hein. N'oublions pas que jusqu'à Yanukovych, il y avait un tarif vraiment privilégié hein, pour le gaz vendu aux Ukrainiens de la part des Russes. C'était pas du tout le prix du marché, hein, pour dire les choses comme elles sont. L'Ukraine ayant pris l'option de se tourner vers l'Ouest, donc les Russes ont ont revu leurs tarifs et demandent aussi que les 5 milliards de dollars d'arriérés soient aussi réglés. Hein. C'était aussi cette question qui était sur la table. Et bien sûr, les Européens étaient partie prenante parce qu'il fallait à tout près qu'un accord se trouve, car 30% de l'Europe, de l'Union Européenne, dépend du gaz russe. Et quand je dis 30%, c'est la moyenne. Et quand on parle des pays dits anciennement du pacte de Varsovie, Hongrie, République Tchèque, Pologne, ça va de 40 à 50, 60% pour certains pays. Donc, c'est alors que l'hiver vient, hein, c'est une question qui était primordiale à régler. Donc, c'est un accord technique, on va dire, parce qu'il fallait le régler, mais qui, sur le fond, ne règle pas le problème entre l'Ukraine, officiellement, donc, et la Russie.
Hein. Oui, moi j'ai même cru comprendre qu'une partie de la dette des 5 milliards de dollars, là, c'est l'Union européenne qui allait la régler dans cet accord.
Alors peut-être, hein, peut-être. On parlait aussi de que les pays membres donc rachètent et par solidarité revendent à l'Ukraine une partie du gaz. Enfin, il y avait un tas de possibilités, hein, qui étaient mises sur la table. Mais globalement, l'hiver arrive. On voit bien que sur le front militaire, l'offensive du gouvernement central de Kiev a échoué début septembre. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce cessez-le-feu, hein, qui est seulement rompu aux alentours de l'aéroport de Donetsk, comme tu le disais, mais qui tient relativement bien partout ailleurs sur le front. Et on voit bien que l'armée ukrainienne n'est pas en état de reconquérir ces deux oblasts du Donbass qui lui échappent. Et pour l'instant, la situation est totalement figée. Donc, on est dans une attente. Alors, les Occidentaux sont dans l'attente de voir si les sanctions par étapes qu'ils ont mises contre la Russie vont porter leurs fruits. Donc, une des sanctions, entre autres, hein, c'est la livraison d'un des navires, le Vladivostok, à l'armée russe. Officiellement, notre président devrait le livrer avant le 15 novembre. Certains disent qu'il est prêt à le revendre aux Canadiens, donc les Américains ont peut-être forcé les mains aux Canadiens pour le racheter. Enfin bref, là on voit bien que on joue dans l'arrière-cour et que au niveau financier, hein, les banques russes ne peuvent plus se financer donc sur le marché mondial, et donc ils ont tendance à se tourner vers le marché asiatique pour se faire. Et donc tout le jeu là, de la part des Occidentaux, on n'accentue pas plus que ça les sanctions, on les maintient, on voit effectivement si elles portent leurs fruits et si la diplomatie russe va changer d'attitude. Et quant à la diplomatie russe, c'est de se dire qu'on tient, enfin voilà, sur nos bases, après tout, nos matières premières, le monde en a besoin, donc ils ont beau nous mettre sous sanction, ils viendront quand même nous acheter ces matières premières, donc on va pas crever la gueule ouverte, et on va voir comment tout ça va se développer dans les mois qui viennent, en tout cas, voilà, sur cette période hivernale qui arrive.
Voilà. Robert, autre sujet dont tu voulais parler ?
Un mot pour parler de la Palestine et Israël, parce que effectivement la décision prise par les Suédois de reconnaître l'État palestinien provoque des remous en Israël, que effectivement l'histoire explique. Vous vous rappelez que la Suède a toujours tenu un rôle de médiateur, de conciliateur depuis le milieu du siècle dernier. Ça a d'ailleurs coûté la vie à certains de ses représentants. On se demande d'ailleurs si, petite parenthèse, si Olof Palme n'a pas été victime effectivement de quelques services secrets israéliens. Bon, toujours est-il que aujourd'hui, eh bien, cette reconnaissance impose aux pays européens de se situer par rapport à cette à cette décision, et on pense notamment à la France qui est un des plus fervents défenseurs d'Israël, quoi que fasse Israël, de décider cette reconnaissance. Alors, bon, on anticipe sur les pages à venir de notre journal, mais on sait déjà que en France, la gauche radicale, Front de Gauche et les Verts veulent pousser le gouvernement à cette reconnaissance, et donc ce sera une bataille assez difficile à mener. Mais c'est une bataille que peut-être au niveau européen, et notamment au niveau du nouveau Parlement, qui lui aussi entre en fonction en même temps que Juncker, qui depuis le 1er novembre, donc depuis deux jours, a pris le commandement à la place de Barroso, savoir si effectivement les Européens vont suivre les Suédois sur ce chemin.
Voilà. Une petite nouvelle qui concerne Israël en passant. Ils sont en train de discuter d'une nouvelle loi qui consisterait à créer un délit de 20 ans de prison pour un jet de pierre par un Palestinien sur une personne ou un véhicule israélien. Jusque-là, c'était 2 ans de prison qui étaient encourus. Donc un durcissement notable aussi dans la répression.
Oui, juste dire que la position de la Suède, il y a déjà plus de 130 pays, si je ne dis pas de bêtises, qui sont sur la position de la Suède. Mais au bout de ce chemin, se trouve toujours le veto des États-Unis d'Amérique. Donc il y a une offensive diplomatique de la part de Mahmoud Abbas de vouloir donc faire bouger les choses au niveau diplomatique, donc la reconnaissance de la Palestine, voyant que sur le dossier des pourparlers bilatéraux, ça n'avance pas. Et on le voit bien que la politique des Israéliens, depuis qu'on a fait capituler les accords d'Oslo, c'est soi-disant aller reprendre les négociations, mais faire en sorte que ça dure, et pendant ce temps-là, pratiquer la politique du fait accompli, à savoir la continuation de la colonisation en Cisjordanie. Et les Israéliens, depuis donc cet été, depuis le massacre de Gaza, continuent, puisque on voit bien que la colonisation, elle continue de plus belle, et que dans les quartiers de Jérusalem Est, comme le quartier de Siwan, qui était totalement peuplé de Palestiniens, on a vu donc cette politique de rachat de maisons en loose day de la part d'associations, d'organismes israéliens, juifs, aidés bien souvent par des ONG des États-Unis, en ce sens, donc acheter au prix fort à des Palestiniens des maisons et l'occuper, et aussitôt donc faire appel à des milices privées, comme ils le font à Hébron, pour regarder. Donc c'est du grignotage petit à petit, mais ça va, donc tout ça, c'est contre le sens même de l'esprit d'Oslo, et on voit pas comment un État palestinien pourrait aboutir, et l'État israélien feint effectivement de condamner ce type de procédé, mais de fait ne fait rien, et on le voit bien, la dernière attaque, c'est celle de l'esplanade des mosquées du Mont du Temple pour les Juifs, qui vise jusqu'à à accepter donc de fait que des Juifs puissent venir prier. Alors officiellement, les choses ne sont pas dites comme ça. On interdit toujours à des Juifs qui considèrent donc l'esplanade des mosquées comme un lieu saint aussi pour eux, comme l'emplacement où ils devraient bâtir le troisième temple. Mais de fait, à pratiquer la politique qu'ils ont pratiquée les dernières semaines, à celle d'interdire donc l'accès à cette esplanade ou de le restreindre aux gens ayant plus de 50 ans, et sans préciser la religion des gens qui pouvaient avoir accès, ça vise aussi donc à remettre en cause donc ce statu quo qui prévalait jusqu'à présent, et qui voulait que l'esplanade de mosquée, c'était quand même le lieu saint donc des musulmans à Jérusalem.
Voilà, il y a beaucoup de sujets, on n'abordera pas tout ce soir. Peut-être, Michel, il y en a un auquel tu avais pensé et sur lequel tu souhaitais t'exprimer. d'autres sujets, non pas spécialement.
Pas particulièrement, donc je veux dire deux mots aussi de l'avancée de l'organisation de l'État islamique. Hein. On parle beaucoup de Kobané, de l'arrivée des troupes kurdes de Barzani depuis le nord de l'Irak via la Turquie à Kobané. Elles seraient arrivées, elles ne sont pas arrivées, on ne sait pas trop rien. Enfin, en tout cas, une grande publicité a été faite autour de cet événement-là. Est-ce que ça va faire tourner le mouvement dans l'autre sens? On peut en douter aujourd'hui. Toujours est-il pendant ce temps-là, donc, ce qu'on appelle Daesh, l'État islamique, l'organisation de l'État islamique avance et avance ailleurs. Il avance puisque les deuxièmes sources de gaz en Syrie ont été de nouveau prises ce week-end par l'État islamique, l'organisation de l'État islamique, et il avance aussi dans le nord de l'Irak où ils ne sont pas loin finalement d'être à la frontière iranienne, hein, donc Daesh. Donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire qu'il y a aussi, et là aussi il ne faut pas non plus formaliser, au sein même de Daesh il y a des Kurdes, donc islamistes, qui ont donc pris les armes au nom donc du califat et qui combattent les Kurdes de Barzani ou de Talabani, qui sont, on va dire, de plus laïques. Donc la situation reste très très compliquée. Aujourd'hui, on voit bien que le combat donc de l'État islamique, c'est aussi le combat des sunnites, hein, et c'est toute la problématique, hein, dans ce dossier-là. C'est-à-dire, si on laisse faire l'Iran, c'est vu comme une ingérence des chiites directement contre les sunnites. L'Arabie saoudite qui est prise entre, voilà, entre deux feux, comme les autres pays sunnites, ne l'accepteraient pas. Enfin, on est dans une forme d'embrouillure le plus total sur ce dossier-là. Et on voit bien que la stratégie mise en place par les Occidentaux, à savoir celui du bombardement ciblé, ne suffit absolument pas.
Il y a quand même eu en Irak cette réaction de fin de semaine là d'Ali Sistani, qui après une exécution de sunnites dans un village par Daesh, a appelé les sunnites à combattre Daesh. On parle de 30 000 hommes qui seraient mobilisables dans la région d'Al-Al-Bara. Et ça, sur le fond de difficultés, on va dire, pour le premier ministre chiite de l'Irak, de structurer et de mobiliser ses troupes. Enfin...
C'est toutes les problématiques, c'est-à-dire ces troupes, elles sont principalement chiites, donc ça serait très très mal vu par la population donc sunnite de voir d'un côté l'oppresseur sunnite de l'organisation État islamique, donc quitter un territoire qu'il contrôle et que ce soit des milices de fait chiites, hein, même si c'est officiellement l'armée irakienne, mais de fait c'est devenu une milice chiite. C'est toute la difficulté aujourd'hui, en vue effectivement de conserver un semblant d'unité du pays, parce que si on veut effectivement faire éclater ce pays-là, on s'y prendrait pas autrement. Et on voit bien déjà que certains se frottent les mains. Les Kurdes sont pas insatisfaits, hein, fin de la situation. Globalement, ils se rendent compte que c'est peut-être leur chance géopolitique, l'émergence de Daesh.
Une opportunité pour eux. Robert, sur ce sujet ou sur autre chose, pour clore notre rubrique internationale?
Peut-être, parler, bien que... Ça ne donne pas forcément de réponse immédiate. Le rapport qu'a produit le cinquième rapport du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça s'est passé à Copenhague. Ce sont des travaux qui duraient depuis plusieurs mois avec plusieurs dizaines, on parle même de plusieurs centaines d'experts qui ont travaillé là-dessus depuis le précédent rapport. Ici, on est au cinquième rapport et effectivement, les conclusions... On a fait venir le secrétaire général de l'ONU pour donner plus de force au cri ou à l'alarme lancée, mais qui n'est pas nouvelle. compte tenu que les conclusions sont toujours le rôle primordial de la dioxyde de carbone, c'est-à-dire productrice de l'effet de serre, et qu'on continue tout doucement de grimper vers les 2 degrés, à partir duquel la situation de la planète serait des plus inconfortables, et c'est un euphémisme que de dire cela. Les prochaines rencontres, c'est dans le mois prochain, on va continuer de discuter à Lima, au Pérou, et puis l'année prochaine, ce sera à Paris, un grand raout sur le climat en mois de décembre. Alors, est-ce que ces rassemblements suffisent? On avait vu que des rassemblements le mois dernier, sur toute la planète, autour du climat, avaient mis dans la rue quand même un peu plus de monde que ce que peuvent proposer ces experts réunis dans des sommets très confortables.
Voilà, puis ils font valoir aussi que finalement, si les économies, on nous explique que la régulation la coûte cher, mais ils le font aussi valoir que la mise en place d'une alternative pour l'énergie renouvelable coûtera moins cher que les dégâts que va engendrer la situation actuelle, sans compter qu'elle engendrerait de l'activité. Enfin, tout ça, c'est encore un sujet qui va revenir de nombreuses fois, bien sûr, dans les négociations. On fait une pause musicale et puis on se retrouve pour la rubrique nationale.
Ils sont venus un matin, sacoche de cuir à la main. On a cru qu'ils étaient de passage. Ils ont voulu voir les gens, ils se sont montrés charmants. Ils connaissaient bien les usages. Sortir du Moyen-Âge. Ils ont noyé mon village. Ils ont noyé mon village. Effacé les témoignages, dispersé nos héritages dans les eaux sombres du barrage. Ils ont noyé mon village. Ils ont noyé mon village. Mis la rivière en cage, pris les torrents en otage. Ils ont noyé mon village. Le discours s'est achevé, les regards se sont croisés, embarrassés par ce beau langage. Certains n'avaient rien compris, mais les plus avertis ont bien senti venir l'orage.
Ayant prévu qu'on serait méfiant, ces beaux messieurs ont parlé d'argent.
Alors comment en vouloir à tous ces gens du terroir d'avoir succombé? Effacer les témoignages, disperser nos héritages dans les eaux sombres du barrage.
Voilà, c'était les Fayards qui interprétaient Barrage, vous nous voyez venir. Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 3 novembre 2014, pour aborder maintenant la rubrique nationale. Bon, on va revenir un peu sur l'affaire de Sivens. Sivens, vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant, puisque ici même, on en parlait 3 semaines avant la manifestation qu'on a annoncée par 2 fois dans ce journal. Manifestation qui s'est déroulée bien à son début et qui a fini avec un type, on peut dire, tiré. Moi, j'ai la ferme conviction que la grenade, le gars, ils ont des fusils à grenade, hein, il a été visé, quoi. Et qu'un jeune a été tué, un jeune qui n'était pas vraiment, qui ne se revendiquait pas comme un politique, ni même comme un militant, il se revendiquait comme un passionné de la nature, et il est venu là, comme tout le monde venait là, et il s'est un peu embarqué dans l'affaire, mais ce n'était pas un black machin, il n'était pas venu pour faire de la casse, mais c'est néanmoins lui qui a trinqué en étant tué dans la nuit de samedi à dimanche, je crois, hein. Oui, c'est ça. Là-dessus, il s'est passé beaucoup de choses que vous avez dû suivre, comme tout le monde, sur les radios et les télés, beaucoup d'instrumentalisation, beaucoup de dénonciation à tort et à travers, une énorme colère chez les jeunes, dans la jeunesse, par rapport à la police, puisqu'il n'y a rien qui justifiait un tel acte qui conduise à ce qui ressemble quand même à un assassinat, quoi. Et donc tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a 2 sortes de manifestations. Il y a eu des manifestations pacifiques, celle d'hier à Paris encore. Puis il y a eu des manifestations délibérément plus violentes où les gens étaient venus pour en découdre avec la police. C'est surtout celle-là qui intéresse les médias, même si en nombre de manifestants, elles sont moindres. Enfin, tout ça pose beaucoup de questions autour de ce projet qui était discutable, voté. Alors, est-ce qu'un projet voté par un conseil général, même quand il est mauvais, est voté? On sait comment ça se passe avec les représentations électives, avec des lobbies qui poussent au cul, un lobby de la FSEA en l'occurrence, pour alimenter une dizaine d'agriculteurs en eau dans une région où peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'eau, il ne faut pas faire de maïs. Mais non, l'agriculture industrielle ne s'arrête pas à ça. Donc on est prêt à massacrer la nature, la végétation. On peut très bien comprendre que des militants écologistes et naturalistes s'opposent à de telles décisions, même quand elles sont validées politiquement par le pouvoir. Voilà, grand débat à partir d'un fait. Alors, on avait connu Michalon il y a une trentaine d'années, hein, 77, contre la centrale nucléaire, contre Superphénix. Michalon y a laissé sa vie, mais Superphénix a dû finir par être arrêté 20 années plus tard. Donc on peut dire que Michalon, tué par la police à ce moment-là, avait la juste position dans le combat, puisqu'effectivement, cette Superphénix n'était pas viable et ne l'a pas été. On peut en penser autant de ce barrage un peu aberrant, dont à l'heure qu'il est, on ne sait pas l'avenir, puisque demain, Ségolène Royal réunit tout le monde, sauf les militants impliqués dans la contestation, qu'elle recevra, paraît-il, séparément vendredi, nous a-t-on annoncé. Voilà, Robert, tu as peut-être des choses à dire. Et je voulais dire un mot de plus, oui, sur Rémi Fraisse, donc un type à qui on rend hommage, qui avait fait un BTS de gestion de protection de la nature, qui s'intéressait à la renoncule à feuilles Spogyglos, donc un type qui avait comme projet dans la vie de s'acheter un terrain et de se lancer dans la production des plantes médicinales. Voilà la vie que la police a brisée par son absurdité de répression tout azimut.
Oui, de répression et surtout de l'usage des grenades offensives. Et c'est déjà comme tu l'as rappelé, c'est une grenade offensive qui a tué en 77 Vital Michelon. Et il y a eu ces jours-ci des déclarations d'Emmanuel, du frère de Vital, qui dit c'est un scandale, c'est insupportable que ces grenades qu'on a dénoncées à l'époque sont toujours en service et ont continué à être utilisées et l'ont été encore donc la semaine dernière. Bon. La répression policière, il faut la condamner, mais à l'intérieur même de la répression policière, il faut encore condamner plus fortement l'usage d'outils comme les grenades offensives, les flashballs, les tasers et d'autres formes qui finalement sont des armes qui mutilent. Qui mutilent les gens. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Rémi Fraisse était un militant. Il était adhérent de la Fédération Nature Environnement, la FNE, qui bosse beaucoup. Et d'ailleurs, elle avait elle-même organisé plusieurs depuis sa mort. Plusieurs manifestations en souvenir de lui. Alors effectivement, c'était le côté concret chez lui et puis aussi la participation collective à la défense de la nature et ce qui l'a conduit donc injustement à la mort. On peut peut-être aborder, puisqu'on parlait un peu de défense de la nature, eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a Hollande qui est au Canada, et le Canada, aussi bien en termes de climat que de défense de la nature, n'est pas un pays qui offre un modèle à la planète. Refus déjà de signer depuis Doha, signer les accords sur les décisions de faire des efforts en matière de lutte contre l'effet de serre, et puis aussi au Canada où finalement on laisse les multinationales couper les arbres et puis aussi forer dans le sol pour faire sortir ce fameux gaz de schiste dont on sait qu'à travers la manière dont on le fait remonter à la surface, eh bien on provoque des grandes catastrophes possibles naturelles. On évoque même des tremblements de terre, bon on n'en a pas la preuve naturellement, des tremblements de terre qui auraient pu être dans les parages immédiats au Canada, été causé par des forages en grande profondeur et puissantes de ces multinationales. Alors de ce qu'on a compris de Hollande jusqu'à présent, eh bien à part dénoncer le terrorisme et puis de faire quelques compliments ici ou là aux députés canadiens, n'a pas abordé cette question de l'écologie, même si ça fait partie de son programme d'environnement. Et par exemple, c'est l'occasion de rappeler que dans le cadre de la mise en service en Europe, et notamment à Gardanne, près de Marseille, d'une énorme centrale biomasse, et bien qu'il est question, faute de trouver assez d'arbres en France, ou du moins d'arriver à passer les barrages des défenseurs de la nature et des arbres, eh bien, on va faire venir, semble-t-il, la compagnie allemande E.ON va faire venir des cargaisons énormes d'arbres du Canada, et le Canada est prêt à livrer ses forêts à qui les veut, pour sans doute quelques sous de plus. Donc c'est ce genre de Canada qu'aujourd'hui Hollande visite. Demain il sera au Québec. On espère que les Québécois lui remonteront les bretelles, mais on n'est pas sûr.
Voilà, bon, il est 8h-5, je voudrais garder un tout petit peu de temps pour parler de novembre, on s'installe partout. Il faut donc qu'on laisse tomber pas mal, je pense, d'informations générales qu'on aurait pu traiter. Puis je voudrais aussi rendre hommage à Guy Fischer, qu'on savait malade depuis un certain nombre d'années d'un cancer et qui est décédé le 1er novembre. Bon, c'est un peu... Et Guy Fischer est un sénateur, 17 ans je crois, de Sénat, de Vénissieux, qui auparavant avait été... un adjoint au maire de Vénissieux, un homme politique au parcours irréprochable et d'une assez admirable, quoi, on ne sait pas trop comment le dire, d'une droiture au-delà de tout ce qu'on peut connaître, et qui avait, sans faire beaucoup de bruit autour de lui, toujours... animé un tas d'actions. On pourrait citer quoi donc dans les dernières choses, je ne sais plus, toi tu avais peut-être quelque chose, Robert, en tête, non, dans ces...
Non, effectivement, c'est, je confirme ce que tu dis, le souvenir que je garde de Guy Fischer, c'est quelqu'un effectivement de tout à fait droit, chaleureux, bon, comme j'allais dire, c'est pas péjoratif, comme on l'est au Parti communiste, je veux dire, sans excès, mais chaleureux. Bon, alors, ouais. Par contre, après, sa vie de sénateur, alors, on dit beaucoup de mal, hein, le train de sénateur, bon, ben, on lui reconnaît le fait d'être resté un militant et que dans tous les débats au Sénat, et il avait gardé ce qu'il avait été à Vénissieux. Il n'a jamais été maire.
Non. Adjoint, premier adjoint à l'urbanisme.
Oui. Et d'ailleurs, quand Well a cédé le pouvoir, on pensait que ce serait lui qui serait le maire. Et puis ça a été finalement André Jorin. Alors, il y a eu un peu à la fois des grincements de dents à l'intérieur comme à l'extérieur du PCF à l'époque. Mais enfin, bon, ça n'a pas été très loin.
Une de ses dernières actions, ça a été de faire une proposition de loi pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la guerre 14-18. Et on pourrait citer beaucoup de choses. Son action pour la reconnaissance du génocide arménien, pour la défense des victimes des essais nucléaires en Polynésie, enfin, ainsi de suite. Et sur le terrain, il gardait un contact. On a eu affaire à lui à travers des activités lyonnaises, un contact très fort avec la personne. Il avait en plus annoncé au mois de septembre que, publiquement, ce qui n'est pas banal, que les médecins, lui, le 19 septembre, que les médecins avaient renoncé à le guérir. Et donc il savait que son reste de vie était très court. Hommage peut-être aussi à un autre décédé de ces jours derniers du Parti communiste.
Oui, Pierre Dex. Alors là, lui, ben, il est allé jusqu'à 92 ans. C'est ça un peu effectivement l'injustice de la nature, si on peut dire ça. Hein. Guy Fischer avait 70, Pierre Dex meurt à 92. Pierre Dex, alors ça, c'est une figure du Parti communiste controversée parce qu'il a été très, très fortement, on le met entre guillemets, stalinien jusqu'à ce que, effectivement, milieu des années 50, eh bien, après la mort de Staline, avec le rapport Khrouchtchev, etc., eh bien, il a d'abord, dans un premier temps, effectivement, participé effectivement, à cette tentative de rénovation du communisme mondial. Bon. Il n'a pas trouvé. Il avait vraiment. Il voulait aller plus loin que ça n'allait à l'époque. Et du coup, comme il trouvait que le Parti communiste français était resté quand même, sans être stalinien, mais était resté quand même très orthodoxe, eh bien, il en est parti. Après, on l'a vu évoluer plutôt un peu à droite à gauche, on va dire. Bon, il s'est surtout spécialisé, ce qu'il était d'ailleurs, sa grande force et sa grande érudition dans le milieu culturel, à travers effectivement ce qu'il a ensuite longuement développé et jusqu'à la fin de sa vie, autour de gens comme Picasso notamment.
Aragon, dont il a écrit une biographie aussi.
Voilà, donc c'était Pierre Dex, donc un personnage important du Parti communiste.
Il est quasiment 8 heures, je vais quand même vous donner très très rapidement quelques infos culturelles. Ben, les Jours Heureux, c'est le 19e festival de paroles ambulantes. C'est cette semaine du 4 au 8 novembre sur Lyon, Vénissieux, Villeurbanne. Il y a une soirée du cours demain. Il y a le cabaret de Nos Jours Heureux. Le terme Nos Jours Heureux est bienvenu. Hein. C'était le nom que le CNE avait donné à son programme. À Loïc Lantoine, jeudi 6 novembre. Le 7 novembre, projet Élise et Mehdi Kruger. Et le samedi 8 novembre, une balade littéraire. En tapant parole ambulante sur Internet, vous devriez avoir beaucoup plus de détails. Et puis, il y a le mois à l'initiative de la librairie La Griffe. Novembre 14, on s'installe partout. Demain, là, les résistances à la guerre s'affichent. C'est une exposition, à la Maison du Passage 44 rue Saint-Georges. Je suis obligé d'écourter les présentations, mais le 6 novembre, échec scolaire, échec social, débat proposé par la CNT au 44 rue Burdeau, par les syndicats santé, sociale et éducation de la CNT. Vendredi 7, l'actualité de Bakounine, débat au lavoir public 4 impasse Flessel de Lyon par Pelletier de la Fédération anarchiste. Et puis le même soir, syndicalisme contre fascisme, quelle lutte antifasciste, débat 19h à la Griffe. Et puis, mais après, ce sera la semaine prochaine, on essaiera de les annoncer. Et si vous êtes un fanatique inconditionnel d'Aragon, une escale poétique ce vendredi 7 novembre à Brignais, et à la rencontre de Louis Aragon avec des lectures et écoutes musicales. Ce Canal Info se termine, il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous devriez pouvoir le réentendre dès ce soir sur Internet. Nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canal. Ne quittez pas l'antenne.